Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être venus si tôt en ce samedi matin, merci aux lycéens d'avoir fait le déplacement et puis à tous les autres, et puis aussi à ceux qui nous écoutent via internet et qui pourront poser leurs questions via Twitter grâce à cet écran juste à ma droite, et puis vous aussi évidemment, vous aurez une large place dans cette discussion, vous allez pouvoir participer, poser vos questions et vos inquiétudes peut-être ou vos espoirs aux quatre chercheurs qui nous font l'amitié d'être là ce matin. Alors le forum s'intitule « Biologie de synthèse ou fabrication du vivant ». On va donc parler de ces deux aspects, et pas uniquement de la biologie de synthèse, même si ça occupera une large place dans cette discussion. En mars dernier, vous l'avez peut-être entendu, des chercheurs ont annoncé qu'ils avaient réussi à créer un chromosome artificiel et à l'insérer dans le génome d'une levure. Cette levure a continué à vivre sa vie de levure tout en exprimant les gènes sur ce chromosome artificiel. Si on remonte encore un peu plus en arrière, c'était en 2010, un Américain, Craig Venter, a annoncé avoir créé dans son laboratoire la première bactérie artificielle. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a fait, hein. Beaucoup de chercheurs disent qu'il y a des nuances à mettre, des sérieuses nuances à mettre là-dessus, mais il a quand même réussi a créé le génome d'une bactérie, un génome entièrement artificiel. Alors voilà deux exemples assez spectaculaires et assez médiatiques aussi de ce que permet de faire la biologie de synthèse. C'est une nouvelle approche en plein essor dans les labos. Jamais l'homme n'avait atteint une telle capacité à agir sur le vivant, à le transformer et puis surtout à mettre comme ça le vivant à son profit. Alors on va essayer de voir ce que c'est exactement que cette biologie de synthèse. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Pourquoi elle nourrit tant d'espoir et dans des domaines très variés, hein, l'alimentation, les matériaux, la dépollution, la médecine, l'énergie, faire de nouveaux carburants grâce à cette biologie de synthèse. Et puis, elle suscite aussi quelques inquiétudes, et ça, on va en parler. Les organismes issus de cette biologie de synthèse pourraient-ils présenter des risques pour l'environnement, pour la santé? Ce sont des inquiétudes qui sont régulièrement évoquées. Alors, on l'abordera avec nos invités. Et puis, au-delà de la biologie de synthèse, je vous disais, on ne parlera pas que de la biologie de synthèse. On verra aussi comment certains scientifiques s'inspirent du vivant. C'est de la biologie, la création de molécules, bio-inspirées. Et l'un des chercheurs ici présents y travaille. Alors, toutes ces avancées scientifiques font émerger de nombreuses questions et également des questions sur ce qu'est même le vivant, c'est-à-dire la définition même du vivant, prête à maintenant à interrogation. Et ça, des anthropologues notamment y réfléchissent, et on a un spécimen d'anthropologue autour de cette table. On abordera donc aussi cet aspect des choses avec nos invités. Voilà, je vous les présente tout de suite. Gilles Truand, à mes côtés, vous êtes donc chercheur au laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés au sein de l'équipe ingénierie moléculaire et métabolique. Ça, c'est à l'INSA de Toulouse. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et puis, un petit peu plus loin, nous avons François Kepes. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, cofondateur et directeur du programme d'épigénomique au Génopôle. Et vous êtes plus précisément responsable de l'équipe d'une équipe à l'Institut de biologie des systèmes et de synthèse. Et votre équipe contribue à des programmes à l'échelle européenne. Stéphane Ménage, également avec nous. Vous êtes chimiste. C'est vous qui faites de la biologie, qui créez des molécules de façon bio-inspirée. Vous nous direz ce que c'est exactement. Vous êtes donc chimiste. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche en technologie et sciences pour le vivant à l'université Joseph Fourier, donc ici à Grenoble, dans une équipe qui dépend du CEA et du CNRS également. Vous êtes dans l'unité chimie et biologie des métaux. Et puis, l'anthropologue, il est là, Péric Pitrou, à l'extrémité de la table. Vous êtes chargé de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS et directeur adjoint de la pépinière interdisciplinaire CNRS-PSL. Et plus précisément, vous êtes responsable de l'axe domestication et fabrication du vivant. Vous nous direz ce que c'est que cette pépinière et à quoi elle réfléchit. C'est vraiment à l'interface de nombreuses disciplines avec un bouillon de réflexion passionnant qui s'y passe. Alors, la première question, peut-être, j'ai donné un vague aperçu, mais certainement qu'il faut donner plus de détails avec vous. Pourquoi pas, Gilles Truand, c'est quoi la biologie de synthèse?
C'est une définition qui est difficile à donner pour moi, mais je pense que la définition qui se rapproche le plus de ce qui est réellement le cas actuellement, c'est de dire qu'on utilise des principes de l'ingénierie pour concevoir des organismes vivants. Je suis d'accord avec vous, le mot « fabriquer du vivant » me gêne un peu. Le vivant, on ne le fabrique pas. En tout cas, on ne sait pas encore le fabriquer. Je pense qu'on le transforme, on le modifie, on ne le fabrique pas. Et donc, on utilise des outils d'ingénierie, c'est-à-dire on utilise finalement on essaye de prévoir la fonction d'une entité biologique avant de l'insérer dans un organisme biologique.
C'est une approche radicalement nouvelle. Quand vous dites de l'ingénierie, il faut bien se figurer ce qu'il y a derrière les mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, on se dit, j'aimerais produire telle molécule. On rentre nos desiderata dans la machine, dans l'ordinateur, et puis on va nous proposer une série d'organismes, de voies de synthèse propres à faire ce qu'on est capable de construire un organisme, enfin d'adapter un organisme vivant à des fins précises.
C'est l'idée. Je ne dis pas qu'on y arrive. On n'y arrive pas encore de cette manière-là. Si c'était aussi simple, je pense que la biologie, on aurait fait beaucoup de progrès. On n'a pas encore suffisamment de progrès en biologie fondamentale pour être capable de prévoir ab initio une fonction et l'introduire dans le vivant. C'est, dis-moi, c'est ce qu'on essaye de faire, mais la biologie réserve beaucoup de surprises et on n'arrive pas de manière si simple en tout cas aujourd'hui.
Et alors, en quoi est-ce différent finalement cette approche de ce qu'on fait avec les OGM ? Avec les OGM, on a un organisme, souvent une plante, on y insère un gène ou deux et pour modifier les fonctions et les propriétés de cet organisme. Là, c'est quoi ? C'est les OGM 2.0 avec la biologie de synthèse ?
On peut appeler ça comme ça, en fait, la différence. Il n'y a pas de différence conceptuelle dans la biologie de synthèse, dans les objets qu'on manipule par rapport à ce qu'il y avait déjà depuis une vingtaine d'années. Je dirais que ce qui a considérablement progressé, c'est les moyens dans la biologie, les moyens techniques, les moyens de manipuler pas un seul organisme, mais plusieurs organismes en même temps, de faire ce qu'on appelle du screening, c'est-à-dire de rechercher des fonctions particulières. La technique a évolué. La biologie en elle-même n'a pas beaucoup évolué sur les OGM depuis une vingtaine d'années.
François Kepes, on est vraiment avec une innovation de rupture avec cette biologie de synthèse, on est dans la continuité d'un processus, on est en train de creuser un sillon. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour qu'on sache faire des choses comme ça aujourd'hui?
Merci de la question.
Ça marche.
Si vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse, nous sommes ici dans une journée, que reste-t-il à découvrir? Alors, j'aimerais faire un tout petit... parenthèse sur cette question.
Oui.
En proposant une image mentale qui n'est pas de moi, mais que je tiens depuis si longtemps que en fait, j'ai oublié de dire. Et donc, je suis tout à fait désolé de ne pas pouvoir rendre à César ce qui est à César. Mais cette personne disait, imaginez une parabole y égale x carré pour les lycéens. Donc vous avez cette forme. Et puis faites-la tourner pour en faire un corps 3D, un corps tridimensionnel. Et maintenant, prenez cette parabole et plongez-la dans un liquide et observez la surface du liquide et l'endroit où la parabole s'enfonce. Alors, premièrement, le fait de l'enfoncer, c'est le processus de la recherche. La partie immergée de la parabole, c'est ce que nous avons appris. La partie émergée, qui est donc infinie, c'est ce qui nous reste à découvrir. Et la surface, l'intersection entre cette parabole et le liquide, tout autour de la parabole, c'est le front de la connaissance, le front de progression de la connaissance. Et donc, en même temps, ce que l'on voit, c'est que plus on plonge la parabole, plus cette ligne, cette circonférence autour... D'accord. Cette partie de la parabole qui est en contact avec la surface du liquide est de plus en plus longue au fur et à mesure que vous plongez. Donc il y a aussi de plus en plus de recherches à mener et le front de progression des connaissances est de plus en plus large au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de connaissances, donc la partie immergée. Comme ça me semble une image mentale intéressante sur ce qui reste à découvrir, en somme, l'infini. Et ce que nous avons découvert, c'est-à-dire une portion finie des connaissances possibles. Alors, pour revenir à notre question sur la rupture. Effectivement, Gilles Truand vous a expliqué qu'il y avait une forte continuité. Alors, du coup, je vais didactiquement insister sur une forte discontinuité, même si, en fait, ce qu'il a dit... me convient tout à fait, mais je crois qu'il faut ajouter une autre perspective. Effectivement, à quel moment est-ce qu'on dit, bon, je fais de la biologie de synthèse? En général, on considère que il y a un seuil de complexité à passer. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Eh bien, c'est relativement simple. Si vous prenez l'interaction de deux molécules biologiques, n'importe lesquelles, vraiment n'importe lesquelles, vous apercevez que quand vous augmentez, mettons, la dose de l'une d'entre eux, vous doublez la dose, eh bien, vous ne doublez pas la réponse due à l'interaction entre ces deux molécules. Vous ne doublez pas. Vous faites moins ou plus. Donc, vous n'avez pas une proportionnalité. Vous n'avez pas une linéarité de la réponse en fonction de la dose. Maintenant, prenez-en trois qui font des interactions par paire. Trois interactions. Prenez-en quatre, etc. Très très vite, il devient impossible de prédire ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on dépasse 3-4 éléments qui sont en interaction, en fait, même le meilleur expert ne peut pas prédire ce qui va se passer parce que chacune de ces interactions est de type non proportionnel. Alors, de ce fait, on est obligé de s'équiper. On est obligé de s'équiper comment ? Eh bien, le plus évident, enfin le plus simple, a priori, c'est de s'équiper d'outils mathématiques de faire un modèle mathématique, comme on dit, et puis de le faire tourner. Et faire tourner un modèle, nous on le faisait dans notre tête jusqu'à ce qu'il y ait un ou deux éléments, peut-être trois, mais là on ne peut plus le faire tourner dans notre tête puisque l'expert même se plante. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise l'outil informatique pour nous aider à faire tourner le modèle, qui ne tourne donc plus uniquement dans notre tête, mais aussi grâce à l'outil informatique, nous renseigne. Et donc c'est ce seuil-là, aux alentours de trois molécules en interaction, qui est le seuil au-delà duquel soit on fait des tas d'essais-erreurs, et c'est ce qu'on a quand même pas mal fait dans le passé, mais ça prend un temps fou et énormément d'argent, soit on s'équipe, on assiste notre intellect avec des outils mathématiques et informatiques qui nous permettent d'appréhender, de prédire ce qui va se passer si on fait ceci, si on change cette concentration, etc., etc. Donc, ici, il y a une rupture qui est assez facile à repérer. C'est la rupture qui nous oblige à passer à un objet plus complexe que ce que l'on savait faire auparavant. Et donc, soit on fait des essais-erreurs pendant une dizaine d'années, soit on fait un modèle et on peut avancer beaucoup, beaucoup plus vite.
C'est-à-dire, pour essayer de reprendre un peu ce que vous dites, pendant longtemps, les biologistes étaient dans l'expérimentation, ce qu'on appelle ça l'empirisme, c'est-à-dire je teste, je mets un peu de ceci, un peu de cela dans ma bactérie, puis j'observe, je regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on se lance moins à l'aveugle, on prévoit, on comprend suffisamment ce qui se passe pour pouvoir le mettre dans des simulations informatiques, changer quelques paramètres, et avoir une sorte de plan d'attaque pour savoir où on va avant même de l'appliquer à des bactéries, à des levures, à des organismes vivants.
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, et du point de vue historique, c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on essaie de, maintenant on a des raisons de faire des choses plus compliquées pour produire des médicaments, des carburants, des choses comme ça, avec des micro-organismes. Et pour faire des choses plus compliquées, effectivement, on se heurte à cette barrière. Donc, on a soit des projets qui durent très longtemps et qui coûtent très cher, ou bien, très logiquement, on essaie de profiter, c'est ce que vous avez dit, de l'avancée des connaissances en biologie, et aussi en mathématiques et en informatique, pour gagner du temps et de l'argent pour arriver à des résultats meilleurs du premier coup.
Alors, quelques exemples pour qu'on comprenne mieux, parce que là, c'est une façon de faire, une technicité que vous nous décrivez, mais la finalité de tout ça, qu'est-ce qu'on fait exactement et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est souvent des, on l'a dit, bactéries, levures, hein, des petits organismes unicellulaires que l'on trafique, ou que l'on transforme, pour être moins péjoratif dans le terme. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'on arrive à produire grâce à ça ?
Oui, on peut prendre des exemples dans différents domaines. Puisqu'on parle de production, là, de manufacture par voie biologique, donc à ce moment-là, l'exemple phare qui a été proposé, c'est un médicament anti-malaria qui s'appelle artémisine et qui est produit à partir de plantes, l'armoise annuelle, mais dans des conditions de production où d'une année sur l'autre, on n'aura pas le même tonnage qui va arriver sur le marché, et donc les prix peuvent s'envoler parfois, et puis aussi la qualité n'est pas reproductible. Et ce qui a été un travail qui a été fait dans les 10 années précédentes, qui a abouti l'année dernière à la production, c'est un travail qui consiste à prendre les gènes qui codent les enzymes pour faire l'artémisine, qui viennent donc de la plante armoise, et de les transplanter dans une levure. C'est la levure du boulanger ou la levure de bière. Hein. Et de produire cela donc dans des réacteurs. Donc, depuis Alors l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'il fallait à peu près 300 à 700 tonnes par an pour soigner l'ensemble du demi-milliard de personnes atteintes de malaria. Et la production par les plantes est de l'ordre de quelques dizaines, tout au mieux, quelques unités ou quelques dizaines de tonnes, donc c'est insuffisant. Mais là, la compagnie pharmaceutique Sanofi a mis en place une usine qui, par l'usage de la levure de boulanger, permet de produire actuellement, en 2013, 60 tonnes d'artémisine par an. Donc à peu près entre 20% et 10% de ce que requierrait l'ensemble des patients. À un coût qui est dans la fourchette basse du coût qui a été atteint précédemment par la production de plantes, c'est-à-dire les bonnes années, les années où le prix était bas. Donc ça, c'est un exemple.
C'est un exemple. On en donnera d'autres. Hein. Je vais faire circuler un peu la parole, mais on en donnera d'autres. Il y a notamment des viandes de synthèse. On peut même imaginer de faire de la viande. Vous nous direz comment. On peut imaginer de faire des carburants à mettre ensuite dans les voitures. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion dans les laboratoires. On aura certainement l'occasion d'en parler dans la discussion avec la salle. Stéphane Ménage, vous êtes chimiste, mais vous travaillez, vous vous intéressez beaucoup. Dans votre laboratoire, d'ailleurs, il y a des biologistes, des chimistes, vous intéressez beaucoup aux vivants, au point de vous en inspirer dans la création de nouvelles molécules, ça s'appelle de la bio-inspiration. Expliquez-nous un peu ce que vous faites dans votre laboratoire. Alors c'est plus vraiment de la biologie de synthèse au sens strict. Hein.
Pas vraiment, mais en fait, comme je suis le seul chimiste ici, derrière cette... Je pense qu'il faut quand même replacer le contexte, et quand on parle de biologie de synthèse, il semble que la chose la plus importante, c'est quand même synthèse. D'accord. C'est-à-dire que, pour moi, la biologie, ce n'est que l'outil. On en a parlé, on a lié, et c'est ça qui fait aujourd'hui toute sa crédibilité, c'est qu'on l'a allié à l'outil mathématique. Et la chose la plus importante, c'est quand même la synthèse. Donc, on fait ces transformations grâce aux bactéries pour faire des molécules d'intérêt. Okay, et ça, c'est quand même la chose la plus importante, et on fait ça depuis très longtemps. Donc, on invente, je ne veux pas dire qu'on n'invente plus rien, je dis juste que on transforme et on va beaucoup plus vite, et ça nous permet d'aller vers une évolution très rapide et de s'ouvrir de nouvelles voies, comme M. Kepes a dit tout à l'heure. La deuxième chose qui est importante là, c'est que les micro-organismes ou le monde du vivant...
Je peux vous donner un petit conseil, posez-le sur le menton, parce que des fois, il se rapproche beaucoup, alors ça fait beaucoup de bruit, et des fois, il s'éloigne et on n'entend plus rien. D'accord. Comme c'est retransmis ensuite sur Internet...
Ça va comme ça?
Si on... bon. Voilà.
Donc, en fait...
Pas complètement.
Comme ça?
Voilà. Oui.
L'idée, c'est de dire que quand même le monde du vivant est fascinant. Il est capable de faire des cascades de réactions à la suite et de manière les plus efficaces possible. D'accord? Ce que le chimiste aujourd'hui n'est pas capable de faire. On est capable aujourd'hui de reproduire 4 ou 5 réactions et s'arrêter là et avoir un produit d'intérêt. Là, on part pratiquement du méthane ou du CO2, de n'importe quel système, même de l'hydrogène, et on est capable de faire des molécules qui sont très élaborées. D'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qu'on a besoin de copier. Donc, ça me permet de rentrer dans ma vision des choses, qui est de parler de la chimie bio-inspirée, qui consiste en fait à comprendre les mécanismes du vivant et d'essayer d'en extraire une idée minimaliste et d'essayer de le reproduire d'un point de vue chimique. En gros, ce qui nous intéresse aujourd'hui et que tout le monde pratique, c'est un peu la vision de l'étude des acteurs principaux du vivant, qui sont les enzymes. D'accord? Une enzyme, c'est un polypeptide qui contient un site actif qui est capable de faire une réaction donnée de manière très efficace, rapide, sélective, et qui est... en interaction avec un autre système qui va lui permettre de faire la suite de la réaction. Donc c'est là où je parle de cascade de réaction. Aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, mais toutes les enzymes ne sont pas capables de faire de toutes les réactions. Elles sont le produit de l'évolution, que parce que il y avait la nécessité de faire telle ou telle réaction, des oxydations, des réductions, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le chimiste a besoin de faire des réactions de couplage de carbone-carbone, par exemple, ou de faire des réactions de Diels-Alder, par exemple, que la biologie ne fait pas. Donc l'idée, c'est de regarder quels sont les concepts, ou du moins les moyens qu'utilise la nature pour faire une réaction, et d'essayer de les reproduire pour faire des réactions qui n'existent pas. Ok ? Donc l'idée qu'on développe au laboratoire, en partie, hein, peut-être que ça, c'est d'essayer de regarder comment fonctionne tel ou tel phénomène, ça peut être la photosynthèse, et de regarder et tout ce qui est autour de la biocatalyse, et de regarder si je peux faire une petite molécule qui va reproduire la même chose. Et en gros, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on reproduit une métallo-enzyme artificielle. Enfin, je dis métallo-enzyme parce qu'on travaille avec les métaux. Et donc, on reproduit une enzyme artificielle et qui va faire une réaction que la nature ne fait pas.
Alors, si j'essaye de le résumer avec une image, au sein des cellules, il y a des molécules outils, il y a un tournevis, petits ciseaux et compagnie, et vous essayez de faire une sorte de couteau suisse qui intégrerait tous ces outils en un seul outil.
Comment ça ?
Voilà, donc vous faites des couteaux suisses moléculaires. Péric Pitrou, vous êtes anthropologue, et évidemment, ces questions, cette façon d'aborder le vivant, aussi bien par le chimiste que par les biologistes qui font appel maintenant à l'informatique, on est vraiment à la frontière de très nombreuses disciplines. Ça vous interroge parce que ça remet en perspective et puis en place même cette question de qu'est-ce que le vivant ? Alors, qu'est-ce que l'anthropologue que vous êtes pense de ce qui a déjà été dit autour de cette table ?
Alors, je vais peut-être pas tout de suite commencer par commenter ce que j'ai entendu, mais plutôt vous parler de la spécificité de l'expérience dans laquelle je suis engagé pour aborder la question du vivant. Je suis ethnologue et anthropologue. En tant qu'ethnologue, j'étudie... grâce à des enquêtes de terrain ethnographiques, les conceptions non occidentales du vivant. C'est-à-dire, pour préciser ce que c'est que l'ethnographie, j'ai passé 2 ans dans un village mexicain, j'ai appris une langue indienne, j'ai assisté à des sacrifices de volailles qui sont adressés par les Mexicains à une entité qui s'appelle « celui qui fait vivre ». En transcrivant les discours rituels et les prières qui sont adressés à cette entité, j'ai commencé à me demander comment cette entité faisait-elle vivre. Quelle était son action, quelles étaient ses actions, ses pouvoirs. Et c'est à partir de cette question finalement très très éloignée de la question qui vient d'être évoquée ici, que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que j'appelle les ethnothéories de la vie, c'est-à-dire quelles sont les façons de penser le vivant dans des sociétés non occidentales. Alors peut-être pour se replacer à un niveau plus phénoménologique, plus humain, plus en accord avec notre expérience quotidienne, faut-il rappeler que nous tous, humains, depuis l'origine de l'humanité, si on peut dire, nous interrogeons sur les êtres vivants, sur les processus vitaux tels qu'ils apparaissent à la fois dans l'environnement, dans le monde animal, dans le monde végétal, mais aussi nous interrogeons sur les processus vitaux tels que nous les expérimentons dans notre propre existence et aussi dans notre propre finitude, puisque nous faisons l'être humain, comme vous le savez, fait l'expérience de la vie à travers aussi sa cessation. Et une des premières marques de l'humanisation est évidemment l'inscription de traces qui indiquent que les humains ont pris conscience que des êtres avaient vécu et sont morts. Donc, depuis l'origine, les humains s'interrogent sur le vivant. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, pour revenir à la question de la fabrication, c'est que nous avons accès à des phénomènes visibles, la croissance, la reproduction, le mouvement, la dégénérescence. Mais les causes de ces phénomènes demeurent, depuis l'origine de l'humanité, en partie invisibles, voire totalement invisibles. Or, ce qui est intéressant, c'est que, avant même que la science occidentale se développe, les humains ont cherché à comprendre, ils ont cherché à, comme on dirait techniquement, objectiver ce qu'ils observaient, et ils ont commencé à apporter des explications à ces phénomènes qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Et dans de nombreux mythes de création, dans de nombreux rites, comme le prouvent les rites qui sont adressés à celui qui fait vivre au Mexique, eh bien on se rend compte que pour mieux comprendre ces processus que l'on ne voit pas, eh bien les humains ont utilisé la métaphore, peut-être que c'est un terme qu'on pourra discuter tout à l'heure, utiliser la métaphore techniciste. C'est-à-dire, de la même façon que l'humain va transformer une matière à travers une action technique, on peut considérer que la vie est une transformation de matière qui est faite, alors évidemment, c'est toute la question, par un agent non humain. Ça peut être un dieu, ou plus tard, dans un moment de désacralisation, peut être la nature. C'est-à-dire que la technique peut être une façon, en fait, de rendre visible ce qui est à l'intérieur, caché finalement dans la matière. Alors, de ce point de vue, si vous voulez, mon approche consiste, alors là, non plus pour parler de la question de l'ethnologie et de l'étude d'une civilisation en particulier, mais du point de vue de l'anthropologie, qui cherche à comparer les conceptions du vivant qui existent dans les différentes cultures. L'idée qui est proposée donc dans les démarches anthropologiques que je poursuis, c'est de comparer d'une façon systématique les différentes conceptions du vivant qui émergent au sein de l'humanité. Alors, il faut être précis. Au sein de l'humanité, le développement de la science occidentale, s'appuyant sur des raisonnements rationnels, a atteint et obtenu des résultats qui sont totalement inégalés dans d'autres types de savoirs traditionnels. Il faut éviter toute forme de relativisme ou de scepticisme. Cela étant dit, on sait aussi que les définitions du vivant qui existent dans la science, par exemple entre des chimistes, des biologistes, des spécialistes des exoplanètes, eh bien ces définitions ne sont pas les mêmes. Il y a un article que je lisais récemment, si vous voulez, je pourrais vous donner la référence plus tard ou par Internet, un article qui a été fait récemment sur les définitions du vivant depuis Claude Bernard dans les sciences. On ne parle pas de société traditionnelle. Et cet article recense 135 définitions du vivant proposées par des chimistes et des biologistes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pas pour vous dire les biologistes et les scientifiques ne sont pas d'accord, ou ils se trompent. Pour vous dire que sur les marges, on est d'accord sur certaines explications, mais sur les marges, la science est en marche, et il y a encore des désaccords, y compris dans la science occidentale. Donc, ce que j'essaye finalement de suggérer, c'est qu'on a tout à gagner à penser l'ensemble des explications que l'humanité a produites depuis l'origine, pour essayer d'y voir plus clair. Pourquoi ? Parce que nous prenons conscience d'un pouvoir inédit sur la nature et sur le vivant. Mais ça ne veut pas dire que ce pouvoir n'existe pas depuis l'origine, puisque la domestication du monde animal et du monde végétal est aussi un phénomène qui émerge en même temps que l'humanisation. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Donc l'idée, c'est de pouvoir établir une continuité entre cette idée d'un pouvoir que l'homme exerce sur l'animal. Un être vivant ou l'environnement n'existe pas en tant que tel, et là c'est peut-être le point où on peut discuter, ils existent en fonction de l'action que les humains vont exercer sur eux et des types de produits qu'ils vont faire émerger de ces êtres vivants. Pendant longtemps, selon les sociétés, eh bien, on va extraire des produits différents, par exemple des animaux, de la peau, du sang, de la viande, du lait. Selon ce qu'on extrait du vivant, eh bien, ce sont des procédures techniques qui sont différentes. C'est aussi des systèmes d'organisation sociale qui sont différents. Autre point qui est étudié évidemment par les sciences sociales. Et désormais, ce qu'on voit arriver au XXe siècle, c'est le fait qu'on s'adresse à des formes de vie différentes. C'est pas simplement le monde végétal et animal, c'est aussi le monde des microbes, le monde des bactéries, etc. Donc là, il y a tout un champ d'investigation sur la façon dont on peut créer de nouveaux produits, de nouveaux bioproduits. Et aussi, la question évidemment qui se pose pour les sciences sociales, c'est comment ces nouveaux modes de production, comment ces nouveaux modes d'extraction, eh bien, modifient les conditions sociales dans lesquelles nous existons. Mmh. Voilà.
Donc, il y a cette idée qu'on ne définit pas et on ne conceptualise pas le vivant de la même manière selon la façon dont on interagit avec.
Tout à fait.
Alors justement, peut-être, vous avez dit la définition du vivant varie beaucoup d'un scientifique à l'autre, d'une discipline à l'autre. Alors prenons peut-être le temps de demander à nos différents intervenants ce qu'est pour eux le vivant. Gilles Truand.
Oui, vaste question. Alors. Je dirais que, de manière très curieuse, quand j'ai commencé ma thèse il y a une vingtaine d'années, on avait une définition du vivant pour les biologistes qui était la capacité d'un organisme à croître, se diviser, utiliser les molécules présentes dans l'environnement pour la transformer en énergie. Voilà. Ces définitions ont évolué parce que dans la liste des organismes vivants qui ont été découverts, les virus, quand j'ai commencé ma thèse, étaient à la frontière. On imaginaient qu'ils n'étaient pas tout à fait vivants parce qu'ils n'avaient pas la capacité de se diviser par eux-mêmes. Et puis, on trouve des formes de virales qui font des réactions particulières. On trouve des formes virales dans des cellules. La biologie a beaucoup apporté ces dernières années sur le type d'organisme. Et je crois que la définition du vivant, pour moi, en tout cas, est bien plus mélangée qu'il y a quelques années quand j'ai commencé ma thèse. Ça reste, pour moi, la définition, c'est quand même bien la transformation de la matière en énergie. C'est sa capacité à se diviser, sa capacité à interagir avec le milieu dans lequel il est, sa capacité à se reproduire de manière sexuée ou non sexuée. Ça, ce sont des définitions qui sont toujours valides. Je pense que c'est les seules définitions que je peux garder, mais qui sont très souvent remises en cause. Très souvent remises en cause, hein, quand on parle de molécules, les molécules du vivant, il y a à l'heure actuelle des projets de recherche qui consistent à essayer de fabriquer des molécules non naturelles pour qu'elles servent de support à l'hérédité du vivant. Donc, est-ce que ça répond, ça, à la définition du vivant qu'on avait avant, puisque c'était toute une série de molécules qui étaient décrites? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas si clair que ça.
Qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous dites une molécule non naturelle qui servirait de support à l'hérédité, ça veut dire que les chromosomes, l'ADN tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est le support de l'hérédité et qui fait que de génération en génération, les organismes se transmettent ce qu'ils sont, vous dites, on pourrait le mettre ailleurs que sur un chromosome fait d'ADN? Sur quoi on pourrait mettre le...
C'est-à-dire qu'on commence à reconstituer des chromosomes qui ne contiennent pas les quatre bases connues de l'ADN.
D'accord. Donc,
on a pris le cinquième, le sixième, etc. Donc, on atteint bien ici une dimension qui est supérieure à celle que on imaginait avec les quatre bases CGT que tout le monde connaît.
Donc, la question que vous posez, c'est si on arrivait, on n'en est pas encore là, mais si on arrivait à créer un organisme dont le patrimoine génétique serait fait de cet ADN artificiel, est-ce qu'on serait face à un organisme vivant ou pas?
Alors, si on prend la définition de la reproduction, sa capacité à se reproduire, sa capacité à utiliser le milieu extérieur pour fabriquer de l'énergie, oui. Par contre, si on utilise des définitions en disant, voilà, le vivant est classifié par les molécules qu'il contient, non. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas face à un vide. Mais pour moi, on est face à une question est-ce que ça répond vraiment à la définition?
Oui. Je ne sais pas. Mais ça montre justement à quel point, effectivement, vos recherches, vos travaux font se poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être avant sur ce qu'est le vivant. On comprend très bien là avec cet exemple très concret pourquoi évidemment la définition du vivant change et requiert quelques amendements. Stéphane Ménage, vous, votre en tant que chimiste, votre définition à vous du vivant?
Ben, en fait, j'ai un peu la même définition que Gilles. En fait, je suis un peu dans le même domaine, donc j'ai cette notion, effectivement, la notion d'hérédité qui est aujourd'hui, effectivement, si on est capable de faire de nouveaux chromosomes avec des acides non naturels, effectivement, ou même avec d'autres cytons, hein, ça pose la question de cette définition, mais jusqu'à maintenant, les trois points que Gilles avait soulevés me semblaient les plus justes.
François Kepes?
Oui, alors, première observation, c'est qu'en fait, les chercheurs en biologie ne se posent absolument plus la question depuis déjà longtemps. Qu'est-ce que le vivant? La deuxième chose, donc je réponds en tant que citoyen et j'ajoute deux définitions au 135. Il y en a une qui est à usage interne entre nous. Un être vivant, c'est une entité qui fait parfaitement ce pour quoi elle est faite. Donc par exemple, le guépard est parfait pour courir très vite. Réfléchissez-y, ça marche très bien comme définition, avec deux petits problèmes. Alors je prends deux exemples pour ces deux problèmes. Un, pour les animistes, le soleil a l'air d'être fait pour faire ce qu'il fait. Pour les non-animistes, il répond aux lois de la physique. Mais il n'y a pas de souci, pour les animistes, c'est parfait, c'est un être vivant, effectivement, il fait ce pourquoi. Bon. Donc la définition est parfaite, et pour les non-animistes aussi. Et puis un autre exemple, c'est la voiture. Une voiture qui n'est pas prise dans un embouteillage, est un être qui a l'air d'être fait pour faire ce qu'il fait. Eh bien, oui, mais c'est un artefact d'être fait par des êtres vivants. Donc, il faut y ajouter les artefacts, effectivement, à ma définition. Après, il y a une définition qui n'est plus pour l'import entre nous, mais pour l'export. Donc, si on veut expliquer dans les autres planètes, en envoyant un message à travers une fusée, qu'est-ce que c'est? Alors, on va dire c'est un système complexe adaptatif.
Je suis pas sûr qu'ils comprennent les extraterrestres une définition pareille.
S'ils ont atteint un bon niveau en maths, ils vont comprendre, sans problème. Système complexe adaptatif. Et après, on va chipoter à savoir. Alors,
Chez nous, donc, c'est à base de chimie carbonée. Ça aurait pu être autre chose. Donc, on va ajouter ça. Et après, on va chipoter, savoir si on considère la fourmi ou la colonie de fourmis. Donc, si on veut que ce soit la fourmi qu'on met en avant, on va dire, et qu'il soit contigu physiquement, donc qu'il y ait une continuité physique. Ou alors, si on accepte les colonies de fourmis, à ce moment-là, on dit, on ne met pas la clause de contiguïté. Donc, voilà deux définitions de plus. À part ça, donc, en tant que citoyen, pour moi, quand je me balade, je salue les êtres vivants de taille visible, en tout cas, hein, que ce soit donc des êtres humains, des crapauds, des chèvres et des chats. Je les salue, je leur parle, je pense que ça fait quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Voilà.
Intéressant. Éric Pitreau.
Oui, alors, je ne vais pas rajouter une définition supplémentaire. En revanche, j'aimerais attirer l'attention concernant le fait que l'universalité de la perception des phénomènes, de l'interaction avec les êtres vivants, ne conduit pas forcément à la formulation d'une idée générale concernant ce qu'est la vie. Donc ça, des philosophes ont bien montré qu'il y a une histoire du concept de vie qui émerge au sein de l'Occident et qui vient en quelque sorte, chemin faisant, rassembler des phénomènes qui n'étaient pas forcément mis les uns avec les autres dans l'approche du monde. Et moi, en tant qu'anthropologue, je ne m'interroge pas sur des évolutions historiques, mais j'essaye de penser des variations synchroniques, c'est-à-dire qui ont lieu au même moment entre les cultures. Eh bien, de ce point de vue, on se rend compte que notre conception de la vie comme un phénomène unifié, par exemple, qui serait l'objet étudié par la biologie, eh bien, cette façon justement de chercher même à définir un objet d'une façon qui soit unilatérale, ne se rencontre pas partout. Et ce qu'on rencontre partout, c'est davantage l'idée qu'il y a des processus qui sont distingués les uns des autres et sur lesquels on cherche à agir d'une façon séparée. Par exemple, il y a des rites ou des mythes qui vont chercher à penser spécifiquement la façon dont les corps vont avoir une forme. Et alors, ça, c'est des mythes qui sont des modèles d'explication. On va expliquer, par exemple, qu'un dieu au Mexique va agir comme un potier. Donc ça, ce qui est visé, c'est d'apporter une explication à l'existence de formes. Dans des mythes amazoniens, eh bien, on voit apparaître aussi des mythes démiurgiques dans lesquels les espèces vont recevoir leurs différentes formes. Donc là, ce qui est en jeu dans l'action d'un démiurge, c'est pas simplement la forme individuelle, c'est l'idée qu'il y a des formes d'espèces qui perdurent dans le temps. Alors, si on prend les mythes de création d'une façon comme ça analytique, on se rend compte que il est possible d'avoir des éléments d'ethnothéorie qui sont différents les uns des autres. Dans cette perspective, les rites sont aussi des façons pour l'humanité de non pas simplement expliquer les choses, mais de tenter de faire agir des entités à qui on attribue le pouvoir de vivre. Par exemple, chez les Mirés, celui qui fait vivre, lorsqu'on lui demande de faire vivre le maïs et de faire croître le maïs, eh bien, on lui fait un sacrifice, donc en répandant du sang et des éléments matériels, c'est ce qu'on appelle des dépôts cérémoniels. Et dans cet acte de distribution matérielle qui est fait sur un espace miniaturisé, eh bien, on espère en quelque sorte tracer le diagramme de l'activité qui doit être faite au plan macroscopique. Donc là, il y a une conception du vivant comme ordre et mesure, qui est autre chose que la forme, qui est autre chose que l'espèce. C'est autre chose. Donc voilà, il y a tout un trésor, si vous voulez, d'inventivité qui est à l'œuvre dans les pensées traditionnelles. Et si on suit cette idée-là, on se rend compte que dans la biologie de synthèse, pour le peu que je peux en comprendre, eh bien, on est aussi dans une activité de décomposition du vivant. On cherche à intervenir sur des processus singuliers, particuliers. Et évidemment, il y a une différence qui doit être faite entre l'être vivant qui est en gros une unité spatio-temporelle qui va... alors justement, la notion d'individu est elle-même assez discutable, puisque où s'arrête la limite, ça c'est un autre problème. Mais cette unité spatio-temporelle fait coexister des processus différents. Et le travail de la science, le travail analytique, c'est-à-dire étymologiquement le travail de décomposition, eh bien, c'est un travail qui vise à penser et expliquer des phénomènes, des processus qui sont distincts les uns des autres. Et évidemment, tout l'enjeu de la démarche synthétique, qui est l'opposé de la démarche analytique, c'est de faire converger ce savoir vers la production de nouveaux existants. Et bon, comme quand j'écoute mes collègues, on se rend bien compte évidemment qu'on est au tout début de cette histoire-là qui est fascinante et bouleversante aussi, puisque ça offre un pouvoir sur la nature qui est complètement inédit. Et c'est vrai que pour le moment, on est davantage dans une relation qui serait, à mon avis, de domestication, ou comme le disait Gilles tout à l'heure, de transformation, plutôt que de fabrication au sens strict, si on entend par fabrication l'idée de créer quelque chose qui n'existait pas au préalable.
Oui, donc aujourd'hui avec la biologie de synthèse, on transforme plus qu'on ne crée vraiment le vivant, Gilles Truand.
Oui, en fait, créer le vivant, pour moi, ça voudrait dire partir de molécules inorganiques et être capable de créer une cellule qui vit.
Aujourd'hui, on ne sait pas le faire.
Aujourd'hui, on ne sait pas le faire.
Bien que les médias aient annoncé, justement, je le disais en introduction, que Craig Venter, cet Américain, avait créé la première bactérie artificielle, c'est un effet d'annonce, c'est pas vraiment ce qu'a fait ce chercheur.
Non, en fait, il a pris une bactérie dont il a enlevé le chromosome, et il a mis un chromosome artificiel à la place. Mais autour du chromosome, il y a bien un sac qui contient tout un tas d'éléments qui sont dans la bactérie, et sans lequel la bactérie n'aurait pas pu multiplier ce chromosome. Donc, il n'est pas parti d'une série de molécules. Pour moi, créer le vivant, ça veut dire partir de matériaux organiques et inorganiques et de créer une cellule. Et ça, on ne sait pas le faire.
Et on est loin de savoir le faire. Est-ce qu'on saura le faire un jour, selon vous?
C'est une question difficile. On avance beaucoup dans cette direction, c'est sûr, parce qu'on a, quand même pas mal décomposé ce qu'on pense être les premières réactions originelles qui sont arrivées avant, qui étaient au niveau de la création de la Terre, de comment on a créé les acides aminés, quelles ont été les premières bases de l'ADN qui ont été créées, quelles sont les premières molécules de la vie qui ont été créées. Donc ça, on arrive à en reproduire certains phénomènes au laboratoire, mais la transition entre ce point-là et la cellule, pour l'instant, on est loin de le faire.
François Kepes.
Oui, c'est juste pour apporter un détail de plus à ce qu'a dit Gilles Truand sur la question chromosome artificiel. On l'a remplacé par un chromosome artificiel. Je pense qu'il est intéressant quand même pour toutes les personnes ici de savoir qu'est-ce que c'est que ce chromosome artificiel. Peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui a été fabriqué. Alors, effectivement, il s'agit d'ADN, là aussi, et cet ADN a été fait par synthèse chimique, donc il est artificiel, je suis tout à fait d'accord, mais il faut quand même savoir que, pour mesurer où on en est aujourd'hui, il faut quand même savoir que cet ADN a la séquence exacte d'un ADN naturel. On l'a juste refait par synthèse chimique. Et puis, dès qu'il a été répliqué, dès qu'on l'a doublé, quadruplé, etc., finalement, cet ADN fait par voie chimique s'est dilué d'un facteur 2 à chaque fois, exponentiellement. Et c'est de l'ADN naturel, fait par la cellule, disons, qui l'a remplacé. Donc, je crois qu'il faut quand même...
Donc, voilà. Ce que vous nous dites, c'est pour le moment, on copie, et la copie est plutôt moins parfaite que l'original.
Alors, elle n'est pas moins parfaite. En l'occurrence, ils ont quand même réussi, effectivement, à faire diviser la cellule. Donc, ça, c'était un joli tour de force. Et puis, un joli tour de force aussi d'avoir synthétisé chimiquement un ADN aussi long. Donc, ça, je crois qu'il faut savoir le reconnaître. En revanche, voilà, c'est ça l'état de l'art.
Alors, est-ce que vous pouvez répondre aussi à cette deuxième question que je posais? Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Est-ce qu'on saura le faire un jour? Et puis, est-ce que ça aurait un intérêt, d'ailleurs, de savoir le faire? C'est-à-dire créer un organisme vivant de toutes pièces en partant de rien?
Oui, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Sans doute, on avancera dans cette voie. Je ne sais pas si on fera cela exactement. Par contre, je peux me prononcer sur l'intérêt. Oui. C'est-à-dire que lorsque on va mettre de la matière grasse, des lipides, dans une petite cellule avec de l'eau et des sels, et que on va essayer de faire avec ça des liposomes. Les liposomes, c'est ce qu'il y a dans les crèmes de beauté. Hein. C'est une émulsion aux lipides. Aux matières grasses. Donc, s'ils font des bulles, ça fait des bulles. Et ces bulles-là, après, il y a tout un jargon. Hein, on va appeler ça des protocellules au lieu d'appeler ça des liposomes. Et puis, on va essayer de mettre des choses dedans qui lui donnent des propriétés. Et là où il y a un intérêt pour la recherche, c'est sûr, c'est que on va essayer de faire des liposomes capables de reproduire une propriété du vivant, pas toutes les propriétés du vivant. Par exemple, capables de se diviser. Mais j'aimerais quand même qu'on soit bien clair sur ce que ça signifie. Se diviser pour une protocellule, ça veut dire qu'en frappant par hasard la paroi de la microcellule ou alors les pales d'un agitateur, elle va, et comme elle était devenue trop grosse, elle va se casser en deux morceaux asymétriques. C'est le cas de tous les liposomes depuis qu'on en fait. Ou alors on va s'intéresser à la croissance, c'est-à-dire l'accrétion, l'agrégation de plus de lipides pour faire plus d'enveloppe à notre liposome. On va s'adresser comme ça à des propriétés du vivant qui sont primordiales, hein, c'est-à-dire la division et puis l'accroissement, mais on s'y adresse de cette manière-là. Donc ça a un intérêt pour la recherche. Ensuite, pour l'application, eh bien, outre les crèmes de beauté, bien sûr, on essaie, enfin, il y a des groupes qui essayent dans le monde de mettre à la surface de ces, donc dans la partie grasse, la partie lipidique, hein, de la vésicule, essaie de mettre des protéines qui reconnaissent, par exemple, une cellule tumorale. L'idée étant d'expédier cela, qu'elle reconnaisse la cellule tumorale, qu'elle s'y fixe. Et que derrière, enfin, c'est-à-dire dans la vésicule, dans la partie où il y a de l'eau et du sel, il y ait quelque chose qui tue les cellules.
Ah ouais. Non, mais là, c'est vraiment de la science-fiction. En fait, on est en train d'imaginer.
Ça, ce n'est pas de la science-fiction.
Non, mais enfin, je veux dire, en tout cas, si je résume, ce que vous dites, c'est des petites cellules artificielles qui rentrent dans notre corps et qui vont désinguer les cellules cancéreuses.
C'est ça.
Une sorte de système immunitaire, mais que l'on aura créé nous-mêmes et plus efficace que le système immunitaire que nous avons actuellement.
Oui. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à essayer d'expliquer les choses par rapport à un existant. L'existant, c'est qu'on prend des médicaments, par exemple, pour tuer les cellules tumorales, mais le problème, c'est qu'il atteint toutes les cellules. Et donc, on a des effets secondaires plus ou moins graves. Par exemple, la plupart des médicaments anticancéreux sont en fait des médicaments qui tuent les cellules en division. Et donc, le danger, c'est qu'on tue aussi d'autres cellules en division, comme celles de notre tractus digestif. Et donc, on a des effets secondaires graves. Donc là, ce qu'on essaie, c'est simplement de maximiser les effets primaires parce qu'on va droit à la bonne cellule tumorale et de minimiser les effets secondaires parce qu'on ne va pas ailleurs. Donc, faire un meilleur adressage.
On sélectionne les cellules dangereuses et on ne s'attaque qu'à elles seules et pas aux cellules saines qui pourraient plus de dommages collatéraux, en quelque sorte.
Oui. On essaie de faire un meilleur adressage.
D'accord.
Et ce sont des travaux qui sont en cours. Je veux dire, ce sont des choses tout à fait qui avancent très bien.
D'accord. Mais là, ce serait pas pour autant des cellules vivantes qui joueraient ce rôle-là, qui viendraient.
Alors moi, je n'appellerais pas ça des cellules vivantes, ou alors à moins que quand vous mettez de la crème le matin sur la peau l'hiver quand il fait froid, vous appelez ça des cellules vivantes. Mais non, pour moi non. Enfin, ouais. Ce sont des liposomes.
Péric Pitrou, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais rebondir sur les remarques de François Kepes sur à la fois la question des propriétés, et puis les questions aussi de la question de l'animisme. En creusant un petit peu, finalement, lorsqu'on cherche à définir le vivant, ou plutôt moi je propose de suspendre un peu le jugement pour comprendre déjà les difficultés épistémologiques qui accompagnent l'acte même de définir le vivant, eh bien on peut se demander justement, pour définir, une des méthodes consiste à fixer le nombre de propriétés qu'on peut attribuer à un phénomène. Or, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les scientifiques ne sont pas d'accord sur les propriétés à apporter, mais dans le monde non occidental, dans les peuples animistes dont vous parliez, des êtres minéraux ou des astres sont considérés comme étant en vie. Alors, là, on a un problème théorique. Et puis, c'est plus que théorique, parce que c'est aussi un problème de réflexion sur la façon d'articuler le dialogue interculturel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait une définition du vivant qui considère que le soleil n'est pas vivant et des peuples d'Amazonie qui considèrent que le soleil est vivant? Qu'est-ce qu'on doit en penser, en fait? Alors, la proposition que ferait l'anthropologie, encore une fois, sans entrer dans un relativisme qui dirait, finalement, les scientifiques, c'est pas mieux que n'importe quel type de savoir, je pense que ça nous invite à réfléchir à deux choses. C'est au fait que la biologie n'est pas la seule science qui puisse définir ce qu'est le vivant, et l'énoncé corollaire, ce n'est pas la seule science, puisque le vivant, c'est un être en relation, et il convient, pour définir ce qu'est être vivant ou être en vie, convient de penser à la façon dont on interagit avec cet être-là. Or, même si, effectivement, du point de vue de la définition biologique, le soleil n'est pas un être vivant, dans la mesure où il y a une attribution d'intentionnalité, d'agentivité, pour employer un terme un peu technique, à cet être-là, il y a une façon de le rendre vivant. Alors encore une fois, on pourrait dire, mais oui, mais c'est de la pensée un petit peu sauvage ou symbolique, etc. Oui et non, puisque comme le disait tout à l'heure François Kepes, on peut aussi faire d'une certaine façon, et on doit faire entrer dans une définition large de ce qu'est le vivant, les artefacts. Or, avec le développement de la robotique, ce qui est en train d'émerger, c'est, et même avant la robotique, le simple fait que nous interagissons avec des artefacts, et je pense que vous avez tous parfois insulté votre voiture ou votre ordinateur, nous attribuons déjà à des êtres qui biologiquement ne sont pas vivants, nous leur attribuons une agentivité et une intentionnalité. Ce qui veut dire que il faut penser à une définition du vivant, c'est une proposition que fait par exemple Dominique Lestel, qui travaille actuellement sur les questions de robotique. On peut avoir une définition non biologique qui considère que le est vivant, un être qui est considéré comme vivant par un autre être vivant. Alors effectivement, ça crée un processus là de chaîne qui fait qu'on peut intégrer dans la vie sociale un certain nombre de d'êtres qui traditionnellement étaient considérés comme non vivants. Et là, il y a des vraies questions qui se posent, puisque finalement, les progrès de la science à la fois font converger la robotique et des questions de biologie de synthèse, mais c'est aussi des voies qui sont différentes les unes des autres. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on est dans un cadre relationnel. Et là, pour ce genre de questions-là, évidemment, les scientifiques des sciences dures ont des choses très importantes à nous dire, mais les sciences sociales jettent un regard sur les phénomènes, proposent des éléments de problématisation, possèdent des méthodologies d'observation qui sont irremplaçables. Et de ce point de vue, l'étude de l'animisme dans des sociétés amazoniennes est utile aussi pour comprendre comment nous attribuons des intentionnalités à des objets de nos environnements. De ce point de vue, juste pour terminer cette petite parenthèse, de ce point de vue, les travaux de Philippe Descola, a ouvert beaucoup de choses de ce point de vue sur la question de l'anthropologie des natures et de la façon d'interagir avec des êtres de l'environnement. Donc les travaux de Philippe Descola sont vraiment précurseurs et offrent un cas d'analyse très, très important pour nos recherches.
On va prendre quelques questions dans la salle. Juste avant, je vois les chercheurs, biologistes et chimistes acquiescer, écouter avec attention ce que vous dites. J'aimerais savoir ce que, alors peut-être Stéphane Ménage, je vous voyais écouter très attentivement, ce que vous pensez, parce que c'est vrai que c'est un discours finalement assez éloigné de ce que vous faites vous au quotidien, vous qui êtes avec des cellules, voire des molécules, des enzymes, vous êtes vraiment au cœur de la matière, dans l'infiniment petit, même si on peut faire encore plus petit que ce que vous étudiez, mais enfin, on est vraiment sous le microscope, et puis là, on a des concepts auxquels vous ne devez pas réfléchir tous les jours, en fait, j'imagine. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Péric Pitrou ?
Effectivement, on ne pense pas tous les jours. Est-ce qu'on est un peu occupé à autre chose, effectivement, et à nous, à associer ces briques les unes après les autres pour essayer de faire ce que l'on appelle le vivant. Et je crois que je voulais juste rebondir sur ce que disait Fanny, c'est l'histoire de la domestication, en fait. En fait, effectivement, c'est ça qu'on fait. Donc, on dit on ne va pas créer de nouveaux objets, une nouvelle vie. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste reproduire en partie ce qu'on voit autour de nous, hein, d'accord. Donc, on va reprendre, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de chercher les choses qui sont les plus intéressantes pour nous, pour une fonction donnée. Donc, on a besoin d'une molécule, on va voir si on n'est pas capable de la fabriquer de cette manière, d'accord. Parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement contrôler, parce que les bactéries, on peut les contrôler, on sait comment s'en débarrasser, donc il n'y a pas spécialement de grands problèmes. Et donc, je ne crois pas que on puisse aller un jour vers quelque chose qui soit complètement sorti de notre univers et quelque chose comme ça. Donc je pense pas qu'un jour on fasse des aliens, ce sera pas possible, je sais pas du tout. Donc ça c'est le premier point. Après effectivement, on se pose jamais ces questions parce que nous ce qui nous intéresse c'est la beauté, c'est de regarder la beauté de la vie en fait, et de regarder ce qui se passe et de s'en imprégner et de pouvoir essayer d'en redonner une petite partie à nos congénères. Voilà.
Allez, on prend quelques questions dans la salle, s'il y en a, et puis je vois sur l'écran défiler des questions qui nous viennent de Twitter, donc éventuellement j'en lirai quelques-unes également. Y a-t-il... Alors, monsieur, là-bas. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur le travail de Craig Venter sur le chromosome. Vous dites que ça n'est pas une fabrication du vivant, c'est évident, mais c'est une ingénierie du vivant qui amène quand même un élément nouveau. Puisque si aujourd'hui Venter et son équipe font rentrer un chromosome artificiel totalement identique, à quelques exceptions, n'oublions pas qu'ils ont mis des codes barres dedans, donc totalement identique au chromosome normal, demain ça veut dire qu'on peut concevoir le contenu du chromosome et créer une cellule qui va exprimer uniquement les gènes qu'on voudra qu'elle exprime. Et même si, au début, cette cellule n'a d'artificiel que le chromosome qu'on a inséré dedans, ce chromosome donnant l'information pour construire de nouvelles cellules, au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires, ces cellules seront des organismes totalement nouveaux. Je pense que là, effectivement, il y a une nouveauté conceptuelle et une nouveauté technologique fondamentale. L'évolution avance par petits pas. Là, on avance avec des sauts bioniques.
Oui, c'est-à-dire qu'on, oui, on chamboule tout, hein, même là, on est jamais une chose pareille depuis que la vie existe sur Terre ne s'était produite. Donc c'est vrai que c'est, on en parle très calmement, mais on est vraiment dans des choses très nouvelles et qui évidemment peuvent poser quand même quelques questions. Qui veut réagir?
Oui, tout à fait. Le saut est énorme et c'est un saut technologique, on est bien d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce qui peut-être participe à cette définition de la biologie de synthèse, c'est la capacité à aller vraiment beaucoup plus vite et avec un volume beaucoup plus grand d'informations qu'on rentre dans une cellule par rapport à ce qu'on faisait. Alors, pour le parler, il y a 20 ans, on était capable déjà de modifier le génome de la levure sans aucune difficulté. Maintenant, il est vrai que on a un saut énorme. Ça, c'est une première chose. La deuxième, quand on fait ça, on a une idée derrière la tête en général. On veut effectivement, pour ce qui est de la levure, François a cité l'exemple de l'artémisinine, il y en a d'autres, il y a l'hydrocortisone, il y a un tas de molécules qui sont fabriquées par la levure maintenant. Recoder la totalité d'un génome pour fabriquer de l'hydrocortisone ou de l'artémisinine, ça n'a pas de sens non plus. Donc il y a on ne peut pas appeler ça un effet d'annonce, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, on montre qu'on est capable de le faire, de là à ce qu'il y ait une réelle importance à changer la totalité d'un génome pour fabriquer une molécule donnée, ça reste à démontrer. Ce qui est, je pense, important, c'est effectivement ce saut qui s'est passé dans ces 10 dernières années, et François l'a bien mentionné, sur les outils mathématiques et l'informatique qui ont fait considérablement progresser la biologie, parce que non seulement l'informatique et la mathématique étaient capables d'expliquer ce que les biologistes voyaient, mais maintenant est capable de proposer un certain nombre de choses à faire par les biologistes. Et donc il n'y a plus cette interaction simplement d'explication, ce qui était peut-être jusqu'à il y a quelques années, les interactions qu'il y avait entre les mathématiques et l'informatique étaient sur la base de « on vous apporte des outils pour comprendre ce que vous voyez ». Maintenant, ce sont des outils qui les apportent pour concevoir. Et typiquement, les chromosomes artificiels, c'est ça, on est capable de les concevoir ab initio, et après, ils sont effectivement transmis. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, tout organisme vivant, ce qu'on lui donne, est transmis à ses générations futures, et qu'il est évident que si on voulait introduire la totalité des chromosomes de levure, et ben on produit une levure qui a une séquence qui n'est absolument pas naturelle. Cela étant, on reste encore quand même dans un domaine qui est, ça n'a d'artificiel, comme disait François, que la première copie, puisque de toute façon, ce qui est dans ce chromosome, ce sont uniquement des briques du vivant et qui ne correspondent qu'à des éléments que la biologie sait faire. C'est-à-dire qu'elle, pour l'instant...
Oui, mais qui ne les avait pas forcément agencés comme ça.
Voilà, tout à fait. L'agencement peut être différent. Voilà,
des édifices qui n'avaient encore jamais été créés ou qui n'avaient jamais vu le jour spontanément à ce jour. Est-ce qu'il y a encore... Oula. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Moi, je pourrais peut-être en ajouter une. Parce que il m'a semblé, monsieur, poindre quand même une légère inquiétude dans votre question. Non, pas du tout. Alors moi, en tout cas, je trouve que ça mérite de la poser. C'est-à-dire que ces organismes vivants que l'on crée de toutes pièces, est-ce que les disséminer dans l'environnement, un jour, est-ce que voilà, on ne voit pas la boîte de Pandore, est-ce que des gènes ne vont pas se répandre dans la nature? On l'a dit, ce sont un peu des OGM, des super OGM. Alors déjà, on avait quelques inquiétudes, en tout cas certains avec les OGM. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter avec ces organismes? Est-ce qu'il y a des garde-fous nécessaires? Qui veut parler là-dessus?
Je vais répondre un petit peu à ça, mais je vais répondre aussi à ce que disait Yves. C'est en fait, j'ai un peu de mal à concevoir que si on fait un micro-organisme minimaliste pour faire une fonction, il soit capable de se répandre d'avoir une vie par lui-même. J'ai un peu de mal à croire ça. Alors, il vivra peut-être en symbiose avec d'autres systèmes, ça c'est une possibilité, je suis d'accord. Mais si on est capable de cantonner nos échantillons dans des lieux particuliers, si on est capable de faire ça, je pense que il y a aucun souci. Après, j'ai oublié.
Les risques environnementaux.
Oui, ben voilà, j'y réponds plus ou moins. En gros, c'est-à-dire que je pense, de toute façon, enfin, je suis peut-être pas le spécialiste pour répondre à ça, mais je vais lancer ça. C'est qu'en gros, on a des outils et des moyens de comment dire, de fixer la vie ou du moins la survie de ces organismes, hein, en leur mettant des gènes particuliers, des résistances à des antibiotiques, etc., et de permettre ainsi de s'en débarrasser.
Gilles Truand, vous voulez ajouter quelque chose?
La plupart de ces fonctions-là sont effectuées par des micro-organismes pour l'instant. Donc, dans les OGM, je pense qu'il faut distinguer, il y a plusieurs classes. C'est un débat qui est énormément difficile et compliqué, mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les micro-organismes, les moyens de confinement sont des moyens de confinement, c'est-à-dire qu'en général, on ne laisse pas les levures se transmettre à l'extérieur. Et comme disait Stéphane, la plupart des ingénieries qu'on fait, on spécialise les cellules pour une fonction donnée. Et ce simple fait-là fait qu'il n'y a pas forcément une adaptation. Cela étant, je pense que tous ces projets-là doivent veiller effectivement à tous les moyens possibles et inimaginables pour éviter que les gènes qui sont introduits puissent être transférés de manière horizontale à d'autres espèces, et pour éviter que cette espèce, quand elle sort, puisse éventuellement se reproduire. Il y a déjà une réflexion sur l'organisme qu'on utilise, les bactéries ou les levures, ça c'est une première chose, et peut-être qu'il y a effectivement, il faut réfléchir aussi, quand on parle de transformation en OGM, il y a probablement des organismes qu'il est plus dangereux de manipuler que d'autres, parce qu'il y a d'autres, il y a certains organismes comme les plantes qui sont effectivement capables d'aller à l'extérieur, il y a des microalgues par exemple qui vivent à la surface de la Terre, et l'ingénierie sur ces organismes-là est probablement, en tout cas, doit être regardée avec beaucoup plus d'attention que celle sur la levure, alors que la levure, effectivement, en dehors de son fermenteur, la plupart des levures qu'on utilise en laboratoire sont incapables de survivre à l'extérieur.
Eric Pitrou, vous vouliez ajouter.
Oui, alors j'avais une réponse, pas directement l'innovation dont vous parliez, mais sur la question finalement des implications sociales des innovations. Alors, parfois, les sciences sociales sont reléguées à une sorte de rôle de la cavalerie, c'est-à-dire qu'ils arrivent après coup, on leur demande de réfléchir à l'acceptabilité de certaines inventions. Alors là, le projet qui est initié avec la pépinière interdisciplinaire, donc domestication et fabrication du vivant, est au contraire d'essayer d'élaborer en commun des objets, des problématiques, avant même, je dirais, leur émergence. Alors, un des apports, encore une fois, des sciences sociales et de l'anthropologie en particulier, concernant ces questions, c'est évidemment le fait qu'il faut réfléchir à la fois à ce que sont les formes de vie au sens biologique, mais aussi à ce que sont les formes de vie au sens d'une vie en commun, d'une vie à plusieurs. Alors, de ce point de vue, par rapport à la question des fondamentales, que reste-t-il à découvrir ? Parfois, on demande aux anthropologues ou aux ethnologues, est-ce qu'il y a encore des tribus perdues à découvrir ? La question n'est pas là, c'est-à-dire que la découverte pour l'anthropologue ou l'ethnologue est davantage de réétudier ou de mieux documenter ce que l'on connaît déjà. Donc là, des découvertes se font, c'est-à-dire qu'en transcrivant des discours rituels d'une population, on va découvrir de nouvelles choses. Cela étant dit, il y a aussi l'idée que en fait, l'anthropologie a encore à découvrir, mais en même temps que l'humanité, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle doit suivre pas à pas non seulement les innovations techniques, mais les modifications sociales, économiques, en termes de système de parenté, etc. Donc, en quelque sorte, l'anthropologie aura à découvrir en même temps que les sociétés, les modifications radicales qui seront causées par l'existence de nouvelles technologies. Alors, effectivement, il y a une incertitude qui est majeure. Ça, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de travaux et de groupes de recherche et de programmes interdisciplinaires qui sont actuellement lancé, c'est que, sans vouloir dramatiser, il y a une sorte de panique, ou en tout cas d'incertitude intellectuelle et sociétale sur les pouvoirs que les humains peuvent effectivement exercer sur leur environnement. Et juste pour conclure ce passage-là, penser les pouvoirs, c'est aussi une façon de penser le pouvoir, je pense que, une bonne façon de penser le pouvoir, et de le mettre en perspective avec le champ des possibles. Parce qu'on sait que justement la possibilité est aussi quelque chose qui renvoie au champ du pouvoir, bien voir tous les possibles qui ont été explorés par les humains, à la fois conceptuellement et matériellement, nous aide en quelque sorte à cartographier un univers qui est quand même un petit peu embrumé, on ne sait pas très bien. Et de ce point de vue, Alors on aurait pu avoir ici peut-être un historien de l'art qui puisse nous expliquer aussi que l'ordre de l'imaginaire, par exemple dans le cinéma ou dans la littérature, est aussi un ordre qui permet d'explorer, alors encore une fois, chacun étant à sa place, les cinéastes ne sont pas des scientifiques, mais ils peuvent explorer, parfois bien avant que les scientifiques s'emparent de certaines questions, ils peuvent explorer un champ des possibles. Donc l'idée de l'interdisciplinarité qui est à l'œuvre dans la pépinière, pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est tout en faisant de la science en commun et à plusieurs, d'essayer de tirer le meilleur parti de tous les savoirs qui sont, ou tous les champs possibles qui sont explorés par les uns et les autres en fonction de nos champs disciplinaires.
Une question dans la salle, je crois que vous en avez une ici. Puis ensuite, j'en lirai une ou deux de celles qui nous arrivent via Twitter.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis étudiant à l'ENSIMA, juste à côté, en mathématiques. Et quand vous parlez des modèles mathématiques, c'est vous qui les faites ou est-ce que ce sont des mathématiciens qui sont intéressés à la biologie? Est-ce qu'on peut, en dans les mathématiques, faire des modèles pour vous?
Peut-être une vocation qui cherche à faire un stage dans un de vos labos.
Oui, mais je vais répondre vraiment en parlant juste de mon équipe. Dans mon équipe, il y a des biologistes, y compris biologistes moléculaires et cellulaires. Et il y a aussi des informaticiens qui sont spécialistes de l'apprentissage machine, des bioinformaticiens. Il y a des physiciens qui sont spécialistes du reploiement des molécules, des macromolécules. Et il y a même des automaticiens spécialistes de la théorie du contrôle. Et tout ça, non pas par snobisme, hein, je précise, mais parce que, en fait, nos projets le nécessitent. Et donc, effectivement, nous mettons, généralement, chez nous, ce sont des physiciens, mais ça pourrait être aussi des informaticiens ou des mathématiciens appliqués qui mettent en place les modèles nécessaires pour soit comprendre, analytique, comme disait Péric Pitrou, soit pour designer, donc synthétique. Ce sont, oui, chez nous, dans mon équipe, ce sont des physiciens, mais ça peut couvrir aussi les mathématiques appliquées.
C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, qui n'est pas non plus une nouveauté, mais pendant longtemps, les chercheurs se rencontraient lors de colloques, mais les labos étaient peut-être plus spécialisés. Maintenant, on a vraiment l'impression qu'au sein même d'un laboratoire, chimistes, biologistes, informaticiens, mathématiciens doivent se parler quotidiennement pour arriver à aborder cette nouvelle discipline, cette nouvelle branche de la biologie qui est la biologie de synthèse. Stéphane Ménage.
Moi, l'interdisciplinarité, je la vis tous les jours, parce que dans notre laboratoire, on a à la fois des chimistes et des biochimistes, hein, donc même des biologistes, même un microbiologiste, et donc on essaye donc de répondre à des questions sur le rôle des métaux dans le monde du vivant, avec des approches un peu différentes, et on se retrouve toujours à se poser les mêmes questions, donc c'est assez drôle. Et donc du coup, on arrive avec des outils différents à répondre à ces questions. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et il faut effectivement aller un peu plus loin aujourd'hui. C'est effectivement en écoutant Péric, je pense que c'est vrai qu'il faut faire entrer un peu plus les SHS dans nos laboratoires. Voilà.
Oui.
Je vais quand même signaler qu'il se trouve que la biologie de synthèse est l'un des domaines dans lequel il y a eu le plus d'interactions dès le début. Alors, ça c'est hyper clair dans le monde anglo-saxon et en France. Il y a vraiment eu un lien fort avec les sciences sociales, et là je rejoins ce que vous disiez au tout début. C'est un cas particulier peut-être, hein. C'est quelque chose de relativement récent, et c'est vraiment autour de la biologie de synthèse, en partie parce que là où par exemple la nanotechnologie pose des questions scientifiques et techniques du même type, il n'y a pas ce côté le vivant, on touche le vivant, et donc c'est peut-être plus sensible en biologie de synthèse. Donc là aussi, je vais pas forcément aller très très plus loin que mon équipe. Ce mois-ci, il y a dans mon équipe un doctorant en sciences sociales qui est présent. C'est quelqu'un qui était formé à, donc il est en train de préparer sa thèse de doctorat en sciences sociales, et il suit ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il regarde un peu comment les flux d'informations, ce que chacun fait, mais aussi les flux d'informations, qui parle à qui et pour parler de quoi, etc., etc. Donc il est formé en ethnographie pour le coup, et voilà, donc ça c'est très concret ce que je suis en train de dire. À titre personnel, je travaille avec deux philosophes qui ont des points de vue très différents, d'ailleurs l'un étant plus sur des questions de l'homme augmenté ou ce genre de choses, et l'autre étant plus sur les mythes, en quoi les mythes peuvent nous aider à réfléchir sur la biologie de synthèse. Et nous avons de multiples contacts de ce type-là. J'ajoute que ça a été formalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez travailler, il faut des sous. Quand vous voulez des sous, vous demandez de l'argent à la Commission européenne. Et les projets de biologie de synthèse sont obligatoirement multiscientifiques, multidisciplinaires, sciences sociales, sciences biologiques, sciences mathématiques, etc.
Vous parliez de l'homme augmenté, enfin, cette idée que la science pourrait donner des capacités nouvelles aux humains. Alors, il y avait une question, je ne sais pas si elle est encore à l'écran, mais je l'ai vu passer tout à l'heure, où on proposait on demandait si un jour des cocktails d'hormones ou de molécules seraient envisageables pour faire repousser un membre, pour allonger la durée de vie, bref, pour augmenter l'humain. Est-ce que la biologie de synthèse, est-ce que c'est une des voies, une des applications possibles à la biologie de synthèse?
Ok. François Kepers. Oui, je peux répondre. Effectivement. Donc la question est tout à fait intéressante. Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire des tissus ou des cellules ou des tissus, c'est-à-dire des groupes de cellules pour faire repousser un membre, etc. Médecine régénérative, comme on dit. Bon, cette médecine fait de gros progrès. Elle fait notamment des gros progrès depuis la découverte des cellules souches, c'est-à-dire de cellules qui, dans notre corps, même chez l'adulte, sont capables de régénérer des tissus. Ça, c'est extrêmement important. C'est une découverte d'une importance primordiale en médecine. C'est évident, notamment en médecine régénérative. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce que nous voyons, c'est que les chercheurs apprennent de mieux en mieux à contrôler par des hormones ou des additifs, par exemple nutritifs, dans le milieu de culture, à obtenir une croissance tissulaire souhaitée vers la médecine régénérative. Ça, c'est un peu la réponse directe à la question. Par ailleurs, ce n'est pas lié à la biologie de synthèse, effectivement. En revanche, là où la biologie de synthèse vient croiser cet agenda de la médecine régénérative, c'est lorsque elle essaye d'utiliser non plus la stimulation chimique pour obtenir son résultat, mais une stimulation génétique. Il y a des projets comme ça, qui sont des projets à 20 ans, autant le dire, sont des projets qui arrivent assez loin derrière les projets qui étaient mentionnés, qui sont à base de chimie, de stimuli chimiques. Il y a des projets comme ça à 20 ans qui ont démarré notamment aux États-Unis.
Vous parlez d'autre chose de la thérapie génique ou c'est comme vous parlez de génétique pour soigner l'homme?
Toute piste peut être considérée. Ça peut être une piste qui considère à reprendre les cellules souches d'un individu de façon à pouvoir, dans l'éprouvette, obtenir un embryon de tissu qu'ensuite on va réimplanter chez lui. Et comme ça vient de lui, ça vient de ses cellules à lui, il ne sera pas rejeté. Ça peut être ça. Ça peut aussi être directement de la stimulation dans le corps de la personne. Toutes les pistes sont envisagées, en fait.
On passe un peu sur d'autres exemples. Alors là encore, il y avait une question. C'est celle-ci, je crois. Voilà. C'est FX Couder. Quel principe pour développer des biocarburants qui ne concurrencent pas les cultures agricoles? Alors, possibilité de créer de nouveaux carburants grâce à la biologie de synthèse. Stéphane Ménage.
Je veux bien répondre à cette question. Effectivement, les biocarburants agricoles, je pense qu'il faudra les oublier si on veut garder notre niveau énergétique et de consommation énergétique mondiale, d'accord, parce qu'on n'aura pas assez de champs pour que ça se passe. Par contre, il existe des micro-organismes, donc on se retrouve dans la biologie de synthèse, où on serait capable de fabriquer des petits lipides, d'accord, qui seraient, fabriquer beaucoup de lipides à l'intérieur de ces micro-organismes et ainsi de permettre de récupérer ces lipides et d'en faire du biocarburant. On se retrouverait du coup non plus à faire une économie d'échelle où on travaillerait avec des systèmes qui sont en volume et non pas en surface et donc on gagnerait effectivement la possibilité de répondre en partie parce qu'on n'arrivera jamais évidemment à reproduire les, c'est 13 terawatts qui est dont on a besoin dans l'année, pour en partie apporter une consommation électrique. Voilà.
Y a-t-il une question? Monsieur, on va vous apporter un micro tout de suite.
J'aimerais savoir où l'on en est actuellement sur la recherche d'un vivant minimum.
Qu'est-ce que vous entendez par vivant minimum?
Je pense que vous avez... C'est-à-dire... Quel est le minimum requis pour que l'entité fabriquée, par exemple, puisse qualifiée de vivante. Ou puisse.
Ça revient un peu à cette question de la définition du vivant que l'on posait en début de rencontre.
Donc c'est effectivement un champ de recherche qui est très très actif pour l'instant. On fait ça sur des bactéries évidemment, ou des levures, parce que le vivant minimum sur des organismes supérieurs, on en est loin d'aborder la question. Sur des bactéries et sur des levures, enfin sur des bactéries essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des gènes au fur et à mesure, jusqu'à que la bactérie ne se divise plus. Voilà. Alors, il y a un très gros travail en même temps où il y a de la modélisation informatique pour essayer de voir effectivement quelles sont les fonctions essentielles. Disons que ce qu'on enlève en premier, c'est toutes les fonctions qui peuvent fabriquer des choses inutiles à la bactérie, donc ça c'est évident. Mais cela dit, je pense pas, enfin je veux dire, on n'a pas de plan réel, enfin on enlève les gènes au fur et à mesure et on regarde ce qui reste. Et si ce reste fonctionne, c'est-à-dire est capable d'assimiler des sources de carbone et est capable de se diviser. C'est vraiment une recherche très active parce que ça permet de, cette fois-ci peut-être pour des besoins industriels, justement, de revenir à ce que monsieur disait, c'est-à-dire que si on veut un organisme qui soit performant dans un fermenteur, on n'a pas forcément, l'organisme n'est pas forcément le même que celui qui est performant dans la nature. Et quand il est en fermenteur, on peut lui retirer un certain nombre de fonctions parce qu'on peut, nous, lui apporter un certain nombre d'éléments. Donc, si on lui apporte les éléments, il n'a pas besoin de les fabriquer. Et comme il n'a pas besoin de les fabriquer, du jour où il se retrouve à l'extérieur, il ne peut pas les fabriquer non plus.
C'est une façon, en fait, de confiner l'organisme, d'être sûr qu'il n'y aura aucune fuite. En fait, on le rend dépendant de l'endroit dans lequel on le cultive. S'il en sort, il mourra asphyxié de faim.
Tout à fait. Il y avait les deux objectifs. Il y a effectivement cet objectif de non-survie à l'extérieur, mais aussi l'objectif de dire qu'à partir du moment où on veut qu'il fabrique quelque chose, on veut qu'il soit performant sur cette fabrication, et tout ce qu'il fabrique d'autre qui peut conduire finalement à une diminution du produit qu'on veut faire fabriquer, c'est pas bon. Donc effectivement, on retire tous les gènes qui servent à rien. Alors quand on dit qu'ils servent à rien dans un environnement donné. Et donc c'est bien ça la définition. Pour moi, une des définitions aussi de ces organismes, enfin de ces organismes en biologie de synthèse, c'est qu'ils sont vivants, enfin ou en tout cas ils sont adaptés à la condition dans laquelle ils sont. Et dans un fermenteur, ces conditions sont très très particulières.
Y a-t-il d'autres questions dans la salle? On va vous apporter un micro, n'hésitez pas, et puis vous aussi monsieur, n'hésitez pas à lever la main parce que comme la rencontre est bientôt terminée, si vous voulez poser des questions.
Merci, bonjour à tous. J'aimerais savoir concernant l'éthique de vos projets scientifiques, est-ce que vous avez une réflexion philosophique avant d'aborder une démarche ou est-ce que vous êtes limité par des conventions, des choses que vous n'avez pas le droit de faire et est-ce que ça vous limite dans vos recherches?
Alors, très bonne question, il y en a deux. Hein. C'est déjà, est-ce que vous-même, vous avez quelques interdits, vous réfléchissez à ce que vous faites, en gros? Et puis, est-ce qu'il y a une instance qui contrôle tout ça? Est-ce que c'est réglementé? Évidemment, faut déjà qu'on comprenne ce que vous faites pour pouvoir ensuite légiférer. Hein.
Alors, je vais parler pour Toulouse. À Toulouse, on a un système de financement de la recherche qui s'appelle Toulouse by Biotech. Toulouse by Biotech, tous les projets qui sont financés sont associés avec quelqu'un de l'école d'éthique des sciences qui est à Toulouse. Et qui est sur chaque projet, vient voir les chercheurs, reste avec les chercheurs pendant un certain temps pour discuter des applications possibles, de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut être dangereux ou pas. Donc ça, c'est l'aspect réflexion personnelle. Maintenant, après, sur l'aspect réglementaire, les organismes génétiquement modifiés de type microbien, il y a une réglementation extrêmement stricte sur leur manipulation, sur leur dissémination, sur les moyens de contrôle, les moyens de lutte pour pas que ces organismes sortent du laboratoire. Donc il y a des aspects réglementaires qui effectivement qui sont importants et qui sont mis en œuvre pour que tous ces objets issus de la recherche ne puissent pas se disséminer à l'extérieur.
Alors des réglementations pour confiner, est-ce qu'il y a aussi des interdits? Est-ce que il y a certains gènes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, d'associer? C'est vrai qu'avec la biologie de synthèse, là on a parlé d'applications positives, mais on peut aussi imaginer de créer, je ne sais pas, des virus, des armes biologiques nouvelles. Qui contrôle ça?
Tout à fait. Donc dans cette classification, il y a des classifications de niveau, ce qu'on appelle de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc un certain nombre de gènes, un gène est associé à une classification. Quand c'est du niveau 1, il faut le détruire en laboratoire et il y a une procédure pour la destruction. Quand c'est du niveau 2, il y a un confinement et une destruction. Et quand c'est du niveau 3, il y a encore une échelle supplémentaire. Donc il y a tout un cadre législatif qui impose effectivement ce cloisonnement, disons, entre les différents types d'expériences. Et quand on cherche à manipuler des gènes issus d'organismes extrêmement dangereux ou d'organismes eux-mêmes qui sont très dangereux, effectivement, c'est manipulé avec des conditions beaucoup plus strictes que quand on manipule de la levure avec des gènes qui n'ont pas forcément des aspects dangereux.
Alors, dans ce registre-là, peut-être encore une question. Il y a une nouvelle tendance, on appelle ça la biologie de garage ou alors la do-it-yourself biology. Ce sont des gens très performants, ça peut être même des gens qui ont fait des études en biologie, mais qui font dans leur biologie de garage, dans leur garage, certaines expériences qui créent à leur tour, qui intègrent des gènes dans des levures, dans des bactéries, qui jouent un peu aux petits biologistes dans leur garage. Est-ce que ça c'est contrôlé? Est-ce que ça vous paraît inquiétant? Peut-être François Kepes.
Alors, la première chose, est-ce que c'est inquiétant? À titre personnel, je réponds non, ce n'est pas inquiétant parce que il y a un lien avec les laboratoires publics. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui circulent entre les deux. Donc à partir de là, qu'est-ce qui peut arriver? Le nouvel arrivant qui va se prendre une dose d'ultraviolet sans avoir mis de masque, des choses comme ça. Évidemment, on essaie de garder ça sous contrôle par justement la connaissance qui circule. Est-ce que c'est une bonne chose? De mon point de vue, c'est une très bonne chose parce que cela signifie que toute personne peut, en principe, plutôt que de se poser de graves questions, qu'est-ce qu'ils font dans ces laboratoires-là, aller faire lui-même. Et donc, ça, c'est la meilleure façon de répondre à cette interrogation. Je rejoins ceux qui disent c'est un moyen de démocratiser la science. Et des lieux ouverts comme cela existent dans beaucoup de pays, y compris en France, l'association La Paillasse. Ensuite, est-ce qu'il y a des dangers? Écoutez, le FBI aux États-Unis s'était penché sur la question, ils ont enquêté longuement et ils ont fini par aboutir à ce qu'on aurait pu s'attendre de la part des Américains, c'est-à-dire « watch your neighborhood ». Vous avez ce genre de panneau partout dans les quartiers d'habitation, c'est-à-dire... Écoutez, si, bon, vous, ok, maintenant, nous, on va plus revenir vous voir, hein, le FBI ne vient plus vous voir, mais voilà notre numéro de téléphone et notre carte de visite. Donc, si jamais vous constatez qu'il y a quelqu'un qui commence à dévier dans votre groupe, bah, écoutez, en cas de doute, vous nous appelez, puis nous, on vous dira, on pense que c'est un problème, on pense que c'est pas un problème. Donc, c'est comme ça que ça s'est résolu aux États-Unis, ce qui veut dire que le FBI n'a pas trouvé qu'il y avait lieu de matière à inquiétude particulière. J'ajoute quand même un petit détail. En France, on ne peut pas faire des OGM sans autorisation. C'est-à-dire que ces petites manipulations qui sont un peu à l'ancienne, la biologie moléculaire d'il y a 10-15 ans, qui se font dans ces laboratoires, dans certains, aux États-Unis par exemple, on ne peut pas le faire en France. On n'a pas l'autorisation, tout simplement. Donc ils ne le font pas.
Éric Pitrou.
Oui, alors j'avais juste une remarque. Alors concernant ce champ de pratique, c'est vrai que la terminologie en français est assez péjoratif parce que en anglais c'est do it yourself biology qui a le mérite d'insister sur le faire, sur le partage de pratiques, sur l'idée qu'en faisant, on le sait tous, on comprend. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait trouver une autre formule que biologie de garage qui donne l'impression qu'on fait des trucs à la fois de mauvaise qualité qui en plus pourraient être potentiellement dangereux. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, je vous informe, alors désolé ce sont pour les Parisiens, mais peut-être qu'il y aura une retransmission en ligne. Le 13 décembre, dans le cadre de la pépinière interdisciplinaire domestication et fabrication du vivant, nous organisons avec Morgan Meyer, qui est un sociologue spécialiste sur la biologie de synthèse, une journée à La Paillasse, donc c'est un samedi. Alors on n'a pas encore le titre définitif, mais ça serait quelque chose de l'ordre de « que peut faire la do it yourself biology ?» avec l'intention de croiser à la fois la question du faire technique sur des processus vitaux, mais aussi que peut faire dans un sens plus général d'une action politique, citoyenne, de modification des conditions sociales. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question très importante sur l'éthique, alors je ne répondrai pas en philosophe, mais je répondrai en anthropologue, avec le regard éloigné, qui est justement un regard qui essaye de comparer les conceptions du vivant qui existent dans les sociétés. J'ai été récemment à Perth, en Australie, pour suivre des activités d'un laboratoire de bioartistes. Qui, alors, il ne faut pas confondre, hein, les bioartistes font d'autres choses que la biologie de synthèse. C'est un champ disciplinaire ou un champ de pratique qui est différent aussi du champ de la do-it-yourself biology. Donc ce sont des artistes qui cherchent à Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez de la beauté des processus vivants, c'était intéressant. Mais enfin, il s'intéresse à l'idée de produire des objets qui donnent à penser, mais qui aussi représentent un certain plaisir esthétique. Alors, le directeur de ce laboratoire, Oren Katz, est quelqu'un qui a aussi un sens une réflexion éthique, qui réfléchit à ce qu'il produit, et il réfléchit aussi aux implications culturelles et aux réceptions de ses œuvres selon les pays dans lesquels il les propose. Et en particulier, il avait mis en scène un rite de mise à mort de cellules qui étaient utilisées lors de certaines cellules, c'était des tissus en fait. Donc à la fin de l'exposition, il y avait une mise à mort en fait de ces tissus qui étaient pratiqués par le public qui finalement touchait les tissus et rien qu'en le touchant, mettait à mort en fait. Alors évidemment, ça nous semble très transgressif, mais ça a le mérite de soulever un certain nombre de questions sur notre éthique, sur le respect, parce qu'il y avait aussi préalablement des rites de soins lors desquels le public donnait, enfin nourrissait en quelque sorte ces tissus, ces êtres vivants. Et ce que Ron Katz a exploré, c'est le fait que selon les cultures, le rapport à ces êtres vivants qui sont des semi-vivants, donc qui sont pas des organismes complets, n'est pas le même. Et l'idée de jouer avec des matières, enfin, je n'aurais pas employé ce mot-là parce que c'est bien plus compliqué. L'idée donc d'intervenir, de modifier des êtres vivants est peut-être perçue, enfin, est certainement perçue d'une façon différente dans un monde judéo-chrétien ou dans un monde bouddhiste comme au Japon. Donc, si vous voulez, les questions éthiques ne sont pas uniquement à penser par rapport à un cadre juridique légal, mais aussi par rapport à un système normatif qui est pluriel au sein de l'humanité. Donc, voilà, ça, c'est pour ouvrir la discussion pour d'autres tables rondes et puis voir que l'éthique, voilà, est quelque chose qui peut être discuté, mais qui n'est pas universel.
On va prendre la dernière question de ce monsieur, on finira un tout petit peu plus tard.
C'est très court. Vous avez fait allusion à un article qui donne de nombreuses définitions de la vie.
135.
Est-ce que vous pouvez donner la référence?
Alors, je m'attendais parce qu'il faut. Alors, avec mon mauvais anglais, On the Liveliness of Artificial Life. Et les auteurs sont Ko, K-O-H, et Ling, L-I-N-G. Et l'article, vous l'aurez en PDF sur Internet. Ce sont des chercheurs qui ont travaillé sur la question de la vie artificielle. Et justement, en essayant de définir ce qu'est cette vie-là, ils ont commencé à faire une inspection de 130. Ils ont constitué un corpus de 135 définitions.
Et pour ceux qui n'ont pas pu noter, on peut venir vous voir à la fin de la rencontre.
Venez me voir ou écrivez-moi. Il y a mon mail sur le site des Fondamentales. Donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai le lien.
J'ai une toute dernière question et je vous prierai d'y répondre vraiment chacun en une minute, si possible. C'est vrai que le thème de ces Fondamentales, c'est que reste-t-il à découvrir. Alors vous avez chacun un petit peu abordé cette question à un moment ou à un autre de la rencontre. Je voudrais transformer un peu la question et vous demander à vous, chercheurs, ce que vous aimeriez découvrir avant la fin de votre carrière de chercheur. Quel est votre graal à vous? Quel est le truc? Vous vous dites, si ça, au moins, je l'ai compris, je l'ai trouvé avant la fin de ma carrière, je serais content. On le fait dans l'ordre. Gilles Truand.
Ouf. il y a beaucoup de choses, donc je vais en prendre une au hasard. Ouais. Notre équipe travaille sur l'ingénierie métabolique, c'est-à-dire la manière de fabriquer des molécules. Et pour l'instant, je dirais qu'on ne comprend pas quand on met une voie nouvelle dans un micro-organisme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait le micro-organisme pour réagir. Et on, un grand champ de recherche, à mon avis, est de comprendre comment l'organisme accepte et réagit à cette voie. Et ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on aimerait travailler. Et on travaille pour l'instant et on aimerait avoir la réponse. Et l'autre, c'est comment fonctionnent les petites machines moléculaires qu'on utilise, qui fabriquent ces réactions. Donc Stéphane aussi travaille là-dessus.
C'est-à-dire que vous utilisez des outils dont vous aimeriez comprendre le fonctionnement.
Tout à fait.
Ah oui. Oui. Mais c'est pas pute comme un autre. Stéphane Ménage.
On apprend tous les jours. Hein.
Oui.
Pour moi, en fait, ce qui est important, alors moi je vais être plus terre à terre, je crois que on est tous prévenus des crises de l'énergie, etc. Donc il faut qu'on aille chercher vers la mise au point de systèmes qui nous permettent d'obtenir des nouveaux carburants. Donc ça, c'est important. Donc c'est déjà démarré, donc on est tous enthousiastes et on sait que ça va marcher. Ça va prendre du temps, donc dans les 20 années qui vont arriver, on devrait arriver à un résultat probant. Il y a une chose aussi peut-être qu'on n'a pas abordée, c'est aussi les matériaux, c'est en fait développer des biomatériaux. En fait, ça serait d'être capable, ben, par exemple, de faire des fils qui, au lieu qu'ils soient du cuivre ou un autre métal, ben, ce serait une assemblée de protéines, par exemple, que vous pouvez déplacer sur des micromètres et être capable ainsi, pourquoi pas un jour, faire un ordinateur qui soit complètement organique.
Alors, pas de regret ouais. Hein, sur les matériaux, puisque ici même, dans une quinzaine de minutes, à 11h20, le thème du forum sera des matériaux vraiment révolutionnaires. Donc, on va en parler ici même. François Kepes.
Oui, de mon côté, alors, mon équipe travaille sur le design de chromosomes bactériens, qui est pas loin du zéro absolu, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on pouvait faire la synthèse chimique, mais qu'on avait finalement copié un chromosome naturel. Effectivement, on ne sait pas mettre sur pied un chromosome viable par design. Donc c'est un peu ce que nous essayons de faire dans l'esprit suivant, celui d'une domestication réussie. Car enfin, quand on domestique une vache laitière, on est obligé de tenir compte quand même de la vache. Je veux dire, on peut pas. Sinon, elle se venge et elle donne un coup de sabot. D'où l'invention des sabots, des sabots en bois pour protéger les pieds des personnes. Mais voyez que on est obligé de négocier. Donc une domestication réussie, c'est une négociation réussie. Dans mon cas, il s'agit de bactéries, mais là aussi la question se pose, parce que si vous ne négociez pas avec la bactérie correctement, à ce moment-là, elle se venge aussi. C'est-à-dire, par exemple, dans votre fermenteur, quand vous allez produire votre médicament, elle va se comporter très mal. Mm-hmm. Elle va changer, elle va muter, elle va faire autre chose que ce que vous voulez. Donc il faut en fait essayer de bien comprendre ce qui lui plaît, ce qui lui convient, pour mieux, pour faire une domestication réussie. Et c'est vraiment le propos de ce que nous essayons de faire.
Ou développer des sabots moléculaires pour les coups de pattes bactériens. Péric Pietro, on termine avec vous.
Bien. Après avoir passé 2 ans lors d'une enquête ethnographique de longue durée dans une communauté amérindienne, et après avoir commencé à explorer les premiers éléments d'une ethnothéorie de la vie dans cette population, évidemment, j'ai commencé à engager une démarche comparatiste. Alors, hélas, la vie est courte, donc je peux pas aller dans une vingtaine de populations pour passer 2 ans à chaque fois et documenter leur conception de la vie et du vivant. Donc, je m'appuie sur des ouvrages. Et ce que j'aimerais bien pouvoir élaborer d'ici quelques années, c'est la possibilité d'articuler conceptuellement les différentes conceptions du vivant qui existent sur la planète avec des types d'organisation sociale. Puisqu'en Occident, comme vous le savez certainement, Foucault a montré que l'émergence d'une certaine conception de la vie coïncide avec l'émergence de certains systèmes politiques dans le cadre de ce qu'il appelle une biopolitique. Donc ça, c'est une thématique qui est assez importante en anthropologie et en philosophie. Donc ça, c'est valable pour le monde occidental. Tout l'enjeu et une des questions qui m'anime, ça serait de pouvoir réfléchir, aux articulations entre le politique et la vie dans d'autres sociétés que la société occidentale.
Merci à vous quatre pour cette discussion passionnante et puis merci à vous de nous avoir suivis. À 11h20, des matériaux vraiment révolutionnaires ici même. Bonne fin de journée.